cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 9 février 1988.
Continuons de nous poser la question, qu'est-ce que c'est que la qualité du point de vue de l'être, c'est-à-dire dans sa relation vis-à-vis de la substance. Qu'ajoute la qualité à la substance? Quelle est sa dépendance à l'égard de la substance? Et qu'est-ce qu'elle ajoute dans l'ordre de l'être? Elle n'est pas la substance, c'est bien évident, puisqu'on a découvert la substance comme une source au-delà de tous les prédicaments. Il ne faut jamais oublier ça. Mais elle est en dépendance de la substance. En ce sens qu'elle apporte une détermination, une forme accidentelle. Et c'est pour ça que je dis un mode. Puisque la forme peut être, alors ça c'est le langage scolastique. C'est une question très délicate. Dans la scolastique, on parle d'une forme substantielle. Aristote ne parle jamais de forme substantielle, il parle de la substance. Alors, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? Parce qu'on doit passer au crible la scolastique. Hein, on doit passer au crible, vous voyez pourquoi? Parce que très souvent, ce sont des expressions qui ont été inventées pour la théologie. Qu'on transpose ensuite directement en philosophie. Alors ça, c'est pas bien. La philosophie doit se redécouvrir à partir de l'expérience. Or, la substance comme telle, elle est principe, source de toutes les déterminations, elle n'est pas la forme. Vous voyez toujours la même chose. La première distinction de la forme, c'est la distinction forme-matière au niveau de l'œuvre artistique. Partez toujours de là pour savoir qu'est-ce que c'est que la forme. Première analogie. L'eidos. La morphée. Puis vous transposez et vous dites nature-forme, nature-matière. Puis on a prolongé substance-forme, substance-matière. Vous voyez, ça c'est tout à fait le scolastique. C'est un très bel exemple. Vous avez donc l'œuvre d'art. L'œuvre artificielle. Vous avez forme, matière. Tout le monde peut saisir ce qu'est la forme à partir de l'œuvre d'art. La forme d'une statue. La forme d'un chapiteau. Écoutez la lecture du réfectoire. Et qui est symbolique. Ça, c'est très curieux puisque la forme de l'art est toujours symbolique. Quel lien y a-t-il entre forme et symbole ? Parce que de fait, toute œuvre d'art est symbolique. Toujours. Est-ce que la photographie est symbolique? Lorsqu'il s'agit d'une photographie artistique, elle vient symbolique. Quand il s'agit d'une photo, carte d'identité, c'est pas symbolique. Parce que quand vous présentez ça au douanier, voyez, c'est symbolique. Il vous prendra pour un fou. Tandis que lui, la carte d'identité, c'est vous. symbolique, ça va pas. Une photo d'art, exprès, elle cherche l'ombre, la lumière pour exprimer autre chose que la personne. Tandis qu'une photo d'identité, c'est la personne. Réfléchissez là-dessus pour voir la différence entre la forme symbolique, toute œuvre d'art. Vous voyez, c'est l'eidos. Puis la matière. Vous transposez ensuite, ça c'est d'ordre pratique. Vous transposez ensuite et vous avez à partir de la réalité physique, nature, forme, nature, matière. Et pour Aristote, tout de même, faudrait même mettre l'ordre inverse. Faudrait mettre comme ça, ce serait plus juste. C'est assez curieux. Toujours intéressant de marquer le premier puis le second. C'est la nature matière et la nature forme. L'ordre est inverse. Vous transposez le vivant. Avez l'âme et le corps. Vous ne dites pas nature âme, nature corps. Ça se dit pas. Puis ensuite, ce qui est, vous avez substance et accident. Alors en métaphysique, mettez substance et qualité. Voilà. Nous y sommes. Voilà la qualité qui apparaît. Parce que accident, vous comprenez bien, c'est multiple et divers, vous voyez tout de suite qualité. Substance et qualité. Voilà, nouvelle distinction. Bien, là, vous êtes en face d'une division analogique. Là, vous voyez bien ce que c'est que l'analogie. Une distinction analogique prise ici, premier analogué. Le premier selon l'ordre génétique. Le premier que je découvre. Forme-matière. C'est une analyse que vous faites. Donc, une petite induction, très rapide, facile à faire. Vous regardez ensuite dans la connaissance, la philosophie spéculative, la réalité physique, nature, et puis vous divisez la nature matière et la nature forme. Et vous savez, la nature, elle est principe, elle est cause. Cause immanente de ce qui émeut. C'est ça la nature. La distinction que vous faites entre œuvre d'art et réalité physique. Et notez bien, c'est toujours très intéressant, quand vous regardez la physique d'Aristote, vous voyez que c'est toujours à partir de l'œuvre d'art qu'Aristote précise ce que c'est que la nature physique. Parce que pour nous, notre premier analogué, c'est l'œuvre d'art. Toute notre connaissance commence par l'œuvre d'art. Regardez le gosse, il joue au domino. Il joue avec des petites autos. Parce que... Il joue avec des petites boules. C'est l'œuvre d'art. Donc, c'est à partir de l'œuvre d'art que notre sensibilité et notre intelligence est prise, est saisie. Et nous faisons cette première division. Alors, voyez, le très grand danger de l'université. C'est de transposer cette division jusqu'ici, sans respecter les niveaux. Autre, voilà l'analogie, autre, 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 autre. Dites-le en grec, allo, 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 allo. Vous en avez quatre. Thank you. remarquez, vous pourriez prendre ici aussi, hein, l'opération. L'opération morale. L'opération morale, l'opération volontaire. L'amour d'amitié. Est-ce que dans l'amour d'amitié, vous trouvez les distinctions forme et matière? Hein? Posez-vous la question. Est-ce que la première distinction entre l'amour d'amitié, c'est matière et forme? Hein? Là, vous savez plus quoi dire. C'est ça le truc univoque. Hein. C'est la clé passe-partout. On a cette première dimension, cette magnifique matière et forme extraordinaire. Ça va passer à travers tout. Et c'est vrai qu'en théologie, ça passe à travers tout. Vous trouvez tout le temps dans un tome matière et forme. Même pour les sacrements. La pénitence. Quelle est la matière de pénitence? L'accusation de vos péchés. Quelle est la forme? L'absolution. Matière et forme. Alors vous voyez la matière, hein? Vos péchés, c'est du bois à brûler. C'est du bois à brûler. C'est vrai, ça va faire du grand feu. Et plus les péchés sont forts, plus le feu est fort, plus c'est la fumée éternelle. C'est le bois à brûler. Et l'absolution, c'est la forme. C'est ce qui brûle le bois, qui le transforme. Oui, matière et forme. Comme Zégrieux, le théologien saint Thomas va transformer cette division, cette distinction matière et forme partout. Quand il s'agit de l'amour d'amitié, est-ce que vous pouvez distinguer matière et forme? Qu'est-ce que vous faites comme première distinction quand il s'agit de l'amour d'amitié? Vous êtes en face du bien. L'ami, c'est le bien. Qu'est-ce que c'est que le bien? Comment divisez-vous le bien? Vous ne divisez pas le bien forme et matière. Non. Vous divisez le bien en bien utile et bien honnête. En bien qui est ma fin ou qui est mon moyen. Et donc vous aurez ici fin et moyen. Il y a des amitiés qui sont des amitiés très utiles. Hein? Puis il y a des amitiés qui sont ma fin. Je peux considérer l'ami comme ma fin, mon bien. Je peux le considérer comme le meilleur des serviteurs. C'est sûr. Et quand l'amitié se dégrade, vous ne regardez plus l'ami que comme votre meilleur des serviteurs. C'est bien la matière. Vous voyez que cette distinction n'est plus du tout la même. C'est ça qui est intéressant. Tandis que si vous la retrouvez bien, pourquoi? Parce que cette distinction, forme et matière, correspond à l'interrogation du tiesti. Qu'est-ce? Qu'est-ce l'œuvre d'art? Qu'est-ce la réalité physique? Qu'est-ce le vivant? Qu'est-ce ce qui est? Tandis que l'ami, vous cherchez l'ami en comprenant qu'il est mon bien, qu'il est ma fin. C'est plus la même interrogation. C'est pour ça que vraiment, je peux laisser tomber ça. C'est tout à fait autre chose. Et je vois que la distinction matière et forme se retrouve bien à quatre niveaux. À quatre niveaux. Le niveau de l'œuvre, le niveau de la réalité physique, le niveau du vivant, le niveau de ce qui est. Quatre niveaux. Si j'ai un esprit trop univoque, ce qu'on a tous, hein, quand on est fatigué, on retombe dans ce qu'on dit l'université. L'université, vous voyez ce que ça veut dire. C'est quand j'attribue animal à homme, à chien et à chat, c'est de l'univocité. C'est toujours l'animal. Même nom, même signification. Voilà ce que c'est que l'université. Même nom, même signification. Tandis qu'au contraire, l'analogie, c'est quand il y a le même nom et des significations diverses. Des significations qui impliquent du plus et du moins. Alors, vous comprenez que si je transpose forme et matière univoquement, qu'est-ce que je vais faire? Je mets entre parenthèses nature et je vois matière et forme. Ce qu'on fera tout de suite. Tandis que si cette distinction, c'est même une division entre matière et forme, je la prends analogiquement, je la prends à partir de la nature. Et je vois que c'est dans la nature qu'il y a une distinction matière et forme. C'est plus directement forme et matière, c'est d'abord la saisie de la nature, et dans la saisie de la nature, je saisis la matière et je saisis la forme. C'est pas la même chose du tout. Faut d'abord saisir ce que c'est que la nature. Et à l'intérieur de la nature, je saisis ça. Je continue. Le vivant, âme, corps. Pourquoi je ne dis pas nature? Parce que le vivant, c'est encore une réalité physique. Ah, attention. C'est une réalité physique et il y a quelque chose de nouveau. Le vivant, c'est celui qui se meut. La réalité physique, c'est la réalité qui émue. Et quand vous montez l'escalier, 4 à 4, vous êtes un vivant. Et plus vous la montez vite, plus vous êtes vivant. Au niveau biologique. Pas au niveau contemplatif. Au niveau biologique. Plus vous le montez vite. Et tout d'un coup, vous manquez une marche et vous mettez dégringoler. Quand vous vous dégringolez, vous n'êtes plus un vivant. Vous êtes une réalité physique. Et vous tombez. Vous êtes mu. Oui. C'est pour que vous compreniez bien la différence entre ce qui est mu et ce qui se meut. Parce que vous en faites l'expérience tout le temps. Je ne vous demande pas de tomber tout le temps par l'expérience de ce qui est mu. Oui, mais c'est très. Quand le vivant diminue, un vieillard tombe plus, un enfant aussi tombe plus que lorsqu'on est en pleine vitalité. Quand vous commencez à manquer de vitalité, vous vous levez le matin, ah, je peux plus. Puis vous asseyez tout de suite. Parce que le physique l'emporte sur le vivant. Ça existe, ça. Le physique l'emporte sur le vivant. Alors on ne peut plus. Le vivant se tient debout. C'est pour ça qu'on se tient debout à l'office. Parce que c'est le vivant qui se tient debout. Tandis que celui qui n'est pas vivant et qui est trop fatigué, il s'assied. Oui, c'est le sac, s'assied. C'est le vivant et ce qui se meut. Alors, la distinction devient âme et corps. C'est très curieux. Donc j'ai une distinction qui va revenir forme et matière. Comme c'est curieux. Pourquoi ça? Parce que l'âme est principe premier de vie. Je passe pas l'âme. Est-ce que l'âme est une nature? Oui, elle l'est, mais elle est plus. Parce que c'est un principe qui s'impose directement, surtout pour l'homme. Je parle de l'âme humaine ici. C'est un principe qui se tient indépendamment de la matière. L'âme subsiste. C'est pour ça que je ne dis pas nature-âme. Pour un arbre, oh, je peux dire nature-âme. Pour un petit chien aussi, mais pas pour l'homme. Parce que l'âme a une autonomie, une indépendance. L'âme subsiste par elle-même. Parce qu'elle subsiste par elle-même, elle a quelque chose qui n'est plus nature-forme. Et lorsqu'il s'agit de ce qui est, ah, alors c'est tout à fait différent. C'est substance-qualité. Est-ce que je peux dire substance, c'est la forme, et la qualité, c'est la matière? Oui, je transpose tout simplement mon université. Et je fais ça. Ou bien, je transpose directement l'université. J'oublie que tout cela, au moins ces deux-là, c'est ce qui devient. Ici, c'est au niveau de l'être. Et là, c'est au niveau de l'œuvre d'art, c'est particulier. Parce que l'œuvre d'art comme telle, est-ce que l'œuvre d'art est émue? Comme telle. Malraux dit, c'est pas un philosophe, mais c'est quand même un philosophe, il y a un certain sens des choses. Malraux dit, l'œuvre d'art est anti-destin. C'est assez beau. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'œuvre d'art va continuer d'exister après la mort de l'artiste. L'artiste, il est dans le destin, il va mourir. La moira, grec. L'œuvre d'art continue d'exister. Donc, l'œuvre d'art résiste au devenir. Pas totalement. À cause de la matière, l'œuvre d'art est corruptible. Mais par la forme, l'œuvre d'art se tient debout. L'œuvre d'art résiste à la mort. Une œuvre d'art ne meurt pas. Mais par la matière, elle est dans la corruptibilité. Vous voyez comme c'est curieux. Et donc, il y a une analogie très forte entre la forme et l'âme. C'est curieux. Et vous voyez que dans le langage même, je retrouve âme et corps, forme et matière. Là, c'est nature-matière, nature-forme. Autre chose. Peut-être sensible à ça, parce que ça fait comprendre ce que c'est que l'analogie. Une même division qui se retrouve dans, selon quatre modalités différentes. Alors vous voyez tout de suite hein, l'erreur d'un Gilson quand il dit dans la philosophie d'Aristote, c'est la distinction de la matière et de la forme qui est la grande distinction. Dit le déformisme. Vous voyez que c'est faux. Parce que cette distinction, est-ce que celle-ci, je ne peux pas dire que tout Aristote dépend de la distinction de l'œuvre d'art, matière et forme. Non. Est-ce que c'est celle-ci? Il pense à celle-ci, il pense à l'arité physique. Mais ce n'est pas matière et forme, c'est nature-matière, nature-forme. Parce que l'arité physique est d'abord une nature. Le vivant est une nature, mais le vivant a quelque chose de propre. Et donc c'est d'abord une âme. Vous êtes, vous, premièrement une âme. Et ensuite une matière. Je sais bien que beaucoup d'hommes sont d'abord matière avant d'être âme. Ça existe, hein, c'est évident. Mais c'est pas tout à fait humain. Normalement, l'homme est premièrement âme. Et puis il y a le corps qui l'assume. Qu'il assume quand il est debout. Quand il dort, c'est la grande victoire du corps. Ça, c'est sûr. Parce que c'est pour ça que vous êtes normalement ou assis ou étendu quand vous dormez. Ça dépend des personnes. Il dort, il n'est plus debout. C'est très difficile de dormir debout. C'est très difficile. Quand on est très très fatigué, comme les vieux chevaux, on peut dormir debout. Mais ça va très mal. Ça ne dure pas très longtemps. Et puis, ce qui est, ce qui est se distingue en substance et qualité. Alors vous voyez, c'est toujours pour me demander, est-ce que la qualité c'est la forme? Et vous voyez, par le fait même aussi, je dis tout de suite, combien c'est pas tout à fait juste de dire substance-forme, c'est-à-dire une forme substantielle. Une forme substantielle, qu'est-ce que ça veut dire? La substance est au-delà de la distinction matière et forme. Elle est au-delà. Donc, il y a bien une analogie, je vois très bien, mais ça va pas. La scolastique peut le faire parce que elle prend ça du côté du théologien. Mais si je veux avoir un langage rigoureux au point de vue philosophique, je suis obligé de bien distinguer la division dans l'ordre du devenir et la distinction dans l'ordre de l'être. Et dans l'ordre de l'être, je distingue substance et qualité. Alors, la qualité, c'est quoi? La qualité, c'est pas la matière. Ça va pas du tout. Alors, la qualité, c'est la forme. Oui, c'est une détermination. Mais je dirais que c'est une forme au niveau métaphysique. C'est une détermination dans l'ordre de l'être. Et parce que c'est une détermination dans l'ordre de l'être, c'est ça la qualité. C'est une détermination dans l'ordre de l'être. Mais c'est une détermination seconde, toujours relative à la substance. Et c'est pour ça que je dirais que c'est un mode. La qualité est une disposition de la substance. Saint Thomas dira ça. La qualité est une disposition de la substance. Et quand Saint Thomas dit que la qualité est une disposition de la substance, il veut montrer justement la relation de la qualité à l'égard de la substance. Et en même temps, qu'elle est quelque chose qui modifie. Disposition de la substance. Donc, c'est quelque chose qui est relatif à la substance, c'est quelque chose qui a sa détermination propre. La détermination de la qualité n'est pas la substance. C'est une détermination propre qui est justement pour manifester ce qu'est la forme. La qualité manifeste la détermination que la substance ne peut pas, elle est source, elle est cachée. La qualité peut être cachée, mais la qualité peut être aussi ce qui se manifeste. J'aurai donc tout de suite ces deux aspects de la qualité, ce que nous disions hier, une qualité intérieure et une qualité visible. La qualité visible manifeste, la qualité invisible, la qualité qui est la plus qualité. Cette qualité intérieure, alors elle, elle est uniquement quelque chose d'ultime. Elle est la détermination ultime, dernière. Elle peut être source d'opération. Elle peut me permettre de rejoindre la fin. Alors, j'ai tout de suite un nouveau regard de la qualité. La qualité, c'est ce qui me permet de rejoindre ma fin. La qualité à la fois mode de la substance, donc quelque chose qui vient déterminer en plus de la substance, mais la qualité a aussi cette chose très curieuse, c'est qu'elle permet à la substance de rejoindre sa fin. Elle permet à la substance donc d'avoir son ultime détermination. Elle est donc bien une forme ultime, dernière, quelque chose permet à la substance de communiquer. La qualité permet le contact avec l'autre. La substance est toujours solitaire. Dans ma substance, c'est mon autonomie. Tandis que la qualité permet le contact, permet de toucher, d'atteindre l'autre. Non seulement de me manifester, mais de toucher, d'atteindre l'autre. C'est ça le propre de la qualité. Elle touche, elle atteint l'autre. Il y a un contact direct, tout à fait particulier. C'est le propre de la qualité, se toucher. Par rapport à l'autre et par rapport à la fin. Alors, je commence à découvrir un peu qu'est-ce que c'est que l'habitus. Quand on dit que les premières qualités, vous voyez ce truc d'Aristote très curieux, dans les catégories, il dit première qualité, disposition, habitus. Alors la scolastique dira difficile immobilis. Donc l'habitus, c'est ce qui est difficile à supprimer. Et la disposition, c'est ce qui est facile à voir. Vous voyez que ça n'a rien du tout de qualitatif, ça. C'est une distinction qui se prend du côté de l'origine. Un habitus, c'est difficile à enlever. Tellement ça inhère. La disposition, ça change facilement. Mais la question du changement n'a rien à voir avec la qualité. La forme, qui est la qualité de l'œuvre d'art, elle est ce qui donne à l'œuvre d'art sa stabilité, mais qui échappe au mouvement de la matière. Qu'est-ce qui est mobile dans l'œuvre d'art? C'est la matière, c'est pas la forme. La forme, par elle-même, est au-delà du devenir. Distinguer les deux premières qualités, disposition et habitus, par difficile immobilis, c'est très secondaire. C'est très bien au niveau des prédicaments, parce que c'est descriptif. Mais ça ne va pas du tout au niveau philosophique. Au niveau philosophique, je devrais dire, la disposition est relative à la substance. C'est la qualité dans son regard vis-à-vis de la substance. Et l'habitus, c'est la qualité dans son regard vis-à-vis de la fin. Alors je commence à entrer dans le domaine propre de la qualité. C'est que de fait, la qualité, elle a toujours ce rôle double. Elle qualifie la substance, c'est vrai. Toute qualité est ordonnée au sujet qui est qualifié. C'est en ce sens qu'elle qualifie l'homme. Et toute qualité permet à l'homme de sortir de lui et de rejoindre sa fin. Je crois que là, je touche ce qu'il y a de tout à fait particulier à la qualité. C'est quelque chose, disposition de la substance. Ça, c'est très très beau. Disposition de la substance. Mode de la substance. Et puis, en même temps, sous un autre aspect, souvent ce seront deux qualités différentes. Mais c'est toujours des qualités. Et la qualité permet à la substance d'entrer en communication, de sortir d'elle-même, d'entrer en communication vis-à-vis des autres et d'entrer en communication vis-à-vis de la fin. La qualité me permet de m'orienter vers ma fin. Ah, ça, c'est très important. Vous voyez que si la qualité diminue, l'homme perd le sens de sa finalité. Et comment retrouver le sens de la finalité? C'est par la qualité. La qualité va être donc ce qui me permet d'atteindre ma fin. C'est donc un avoir en vue de la fin. C'est une détermination en vue de la fin. C'est ça le propre de la qualité. Et en même temps, disposition de la substance. La qualité n'est donc jamais absolument simple. Il n'y a que la substance qui est simple. Puisqu'il y a un double regard dans la qualité. Un regard vers la substance, un regard vers la fin. Et ceci est tellement fort qu'il va y avoir nécessairement des qualités tournées vers la substance et des qualités tournées vers la fin. Mais la qualité comme telle implique les deux. Au plan métaphysique, au plan de l'être. Est-ce que vous saisissez ça? Je crois que c'est très important. C'est très difficile à exprimer. Parce que ça fait comprendre que la qualité, j'allais presque dire, est toujours ambiguë. Elle a un pied d'un côté, un pied de l'autre. La qualité regarde la substance, ah oui, ça, disposition de la substance. Et la qualité orientée vers la fin. La qualité ne peut pas être uniquement tournée vers la substance. Ce serait une sursubstance. C'est pas ça du tout. La qualité va permettre à la substance d'éclater, de rejoindre sa fin. Toute qualité. Mais je peux dire tout de suite qu'il y aura des qualités qui seront beaucoup plus tournées vers la substance et d'autres qualités beaucoup plus tournées vers la fin. Alors, je reprends les quatre qualités que je vous disais hier. On va voir si ça épuise les quatre, ou s'il faut ajouter encore deux autres dimensions à la qualité. Vous voyez, je reste fixé. C'est très curieux, ça. C'est le propre du domaine de la qualité. La qualité n'est pas simple. Pourquoi Aristote, tout de suite, quand il est dans les qualités, il donne les quatre qualités? Je me suis toujours demandé pourquoi. Il n'explique pas. C'est parce que si vous creusez ce que c'est que la qualité, vous voyez que la qualité n'est pas simple. C'est pas étonnant. Au plan métaphysique, seul le premier est simple. Et le premier, c'est la substance. Donc, aucun des accidents n'est simple. Ça, on verra de plus en plus. Ou on serait tenté de dire que je retrouve la simplicité absolue, c'est dans la qualité. L'artiste croira que la forme est simple. Elle n'est jamais simple. Ce qui est linéaire à la matière. Alors vous allez trouver, même là, vous voyez, c'est pour vous montrer que la recherche métaphysique nous donne, même au point de vue de l'œuvre d'art, une nouvelle manière de regarder la forme. C'est pas étonnant. La forme, au niveau artistique, n'est pas la qualité métaphysique, c'est sûr. Mais la qualité métaphysique éclaire la forme artistique. Forcément, puisque la forme artistique, c'est quand même une réalité. C'est quand même un certain être. Et donc, si je comprends bien ce que c'est que la qualité au métaphysique, ça m'éclaire la forme au niveau artistique. Eh bien, au niveau artistique, voyez la différence entre la manière dont l'artisan regarde ce que c'est que la forme et ce qu'on appelle les beaux-arts. L'artisan est très sensible à ce que la forme soit éduite de la matière, provienne de la matière. Et le sculpteur, sa forme vient de la matière. Et les beaux-arts, tentation constante, c'est que la forme vienne de l'extérieur. Elle vient du cerveau d'artiste. Il plane toujours un peu. Toujours un peu. Il appliquera ça à la matière, puis ça collera pas. C'est, oui, c'est la critique qu'on fait au point de vue artistique. La première critique qu'on fait au point de vue artistique, y a-t-il l'unité? l'unité entre forme et matière. Une œuvre artisanale, la forme est toute disposition de la matière. Une œuvre d'art un peu farfelue, la forme, elle tombe du ciel. Il y a un décalage entre la forme et la matière. Quelle est la finalité de l'œuvre d'art? C'est la beauté. Et c'est relatif à l'eidos de l'artiste. Et donc à ce moment-là, la forme se définit relativement à l'eidos et non plus relativement à la matière. Vous voyez donc bien, même dans l'œuvre d'art, même dans la forme de l'œuvre d'art, même dans la qualité prise du côté de l'œuvre d'art, les deux aspects impliqués dans la qualité. Le regard vers la matière, le regard vers l'eidos. Et c'est plus ou moins comme ça. Une œuvre classique, c'est quand, entre la forme et la matière, il y a une unité parfaite. Une œuvre romantique, il y a deux romantismes. Il y a un romantisme du clair de lune, c'est le romantisme de la matière. Et puis il y a le romantisme de l'eidos, qui est le farfelu de l'intelligence de l'artiste. C'est vrai, il y a deux formes d'aide. Il y a deux romantismes. Il y a un romantisme matériel et un romantisme formel. Et c'est qu'il n'y a pas d'unité. Il y a une espèce de lutte. Alors c'est pour ça que le romantisme aime tellement le drame. Le drame, c'est la lutte entre la forme et la matière. Il n'y a pas d'unité. Il y a une tentation de la forme qui part de son côté et la matière reste de l'autre côté. Je crois que c'est très important de saisir que la qualité, c'est une forme qui est à la fois mode et une forme qui est ultime vers la fin. Donc je ne peux pas définir la qualité uniquement par la forme. Je suis obligé de préciser. C'est une forme au niveau de l'être, au niveau métaphysique, et donc qui est relative à la substance et qui est relative à la fin.